Aldonaori, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ?
Eh bien, pendant 40 ans, j'ai eu tous les mois de janvier à soigner les couples qui se cassaient la gueule ou qui risquaient de se casser la gueule en raison de la manière dont s'étaient passées les fêtes de famille, les fêtes de fin d'année. Et mon Dieu, j'ai vu tellement de femmes parler de leur belle-mère, tellement d'hommes parler des leurs, tellement de grand-mères me dire pique-pendre de leur bru ou de leur gendre, que je me suis interrogé sur la tension qui caractérisait ces liens-là. Et en y réfléchissant et en y trouvant aucune solution qui pût me satisfaire en apparence, j'ai décidé de me poser les questions et d'aller réfléchir, moyennant tout le savoir que je pouvais avoir accumulé pour répondre à ces questions-là, à cette question de cette tension.
Alors, de médecin, vous êtes devenu pour écrire ce livre psychanalyste, linguiste, sociologue, biologiste, historien.
Honnête homme. Non, dans la mesure, si vous voulez, où, évidemment, j'ai été soulagé d'apprendre que des gens comme moi, il en existait beaucoup et qu'un sociologue qui s'appelait Saint-Saulieu leur a donné une étiquette. Il a dit que c'était des marginaux séquents. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en tant que pédiatre, je fais de la médecine générale pour enfants. Et la médecine générale pour enfants fait que je dois être compétent dans à peu près tout ce qui est secteur médicaux, et on sait que la médecine se surspécialise. Il y a quelque chose qui n'est pas enseigné dans la formation de pédiatre, c'est précisément tout le relationnel. Ça n'existe pas. Donc, pour pouvoir éventuellement me débrouiller là-dedans, j'ai fait de la psychanalyse. J'ai fait une psychanalyse. Et puis, la psychanalyse est une ouverture d'esprit qui est tellement vaste qu'elle entretient, enfin, elle radicalise même la curiosité, si bien qu'à partir de là, je me suis mis à m'intéresser à toutes sortes de champs de savoir et à toutes sortes de sciences humaines dans lesquelles je me suis formé.
Alors, d'où vient étymologiquement le mot « belle-mère » ? Vous en parlez dans votre livre.
Oui, effectivement, j'en parle justement pour montrer le problème de cette tension des liens est à la fois universel et intemporel, puisque le terme de belle-mère a été forgé au Xe siècle, quand on a pris l'habitude de flatter son interlocuteur en lui disant beau ou belle, surtout quand on pensait qu'il avait à votre endroit ou que nous avions à son endroit des sentiments négatifs. Ça veut dire même que le mot belle-mère, au lieu de rendre les choses plus douces, ne fait que les désigner comme étant des liens dans lesquels il va y avoir de la friction et de la tension.
Mais alors, toutes les langues ne désignent pas la femme du fils de la même façon ?
Non, toutes les langues ne les désignent pas de la même façon, et c'est là aussi tout le chapitre linguistique que j'ai consacré au problème, et il leur assigne une fonction qui est une fonction, pour ce qu'il en est des brus, une fonction inférieure. Le mieux que j'ai trouvé, c'est l'idéogramme chinois qui écrit « la belle-fille, c'est celle qui balaye ». Vous voyez ? Elle est vraiment réduite à cela. Et dans d'autres civilisations, elle doit faire ses preuves, vous voyez. Il lui est confié une tâche, et cette tâche, justement, c'est de permettre à l'homme qu'il a épousé de recouvrer le même luxe que celui, et la même tendresse que celle qu'il a connue du côté de sa mère. Voilà. Alors, évidemment, il y a quantité de variantes, étant entendu que nous sommes là dans quelque chose qui ouvre la voie à un travail de réflexion autour de l'histoire de l'espèce. Et avec, bien entendu, au cours de l'histoire de l'espèce, la domination masculine qui a été augurée par la loi de l'interdit de l'inceste. Et cette domination masculine a probablement était quelque chose d'une importance qu'on ne soupçonne pas et que j'ai eu envie justement de souligner pour montrer son importance dans le progrès humain. Ça n'est pas aujourd'hui le malheur, c'est que on fait les procès de choses anciennes sans jamais évoquer les conditions du moment où les choses se sont produites. On réfléchit à l'aune de notre environnement immédiat Et on condamne, bien entendu, au cours de cette... Voilà, ça n'a pas du tout de sens, et il est fondamental de pouvoir réfléchir à la manière dont les choses avaient une certaine cohérence au moment où elles sont produites. Mais la loi de l'espèce mise en place par des hommes avait une importance fondamentale, mais énorme. C'était que c'était la première initiative prise dans le chaos. Je veux dire qu'on peut cracher sur les hommes, dire que c'est des salauds, que c'est des dominateurs, des pourris, des ceci et des cela. Il n'empêche que sans eux, il n'y aurait probablement jamais eu autre chose que le chaos. Et donc ce sont eux qui sont les fondateurs de la culture. Maintenant, là encore une fois, en disant ce genre de choses, je ne suis pas en train de dire que les femmes qui ont été rétives à cette loi et qui continue de l'être, ont eu tort de l'être. Je pense que leur rétivité, la satisfaction constante qu'elles manifestent dans toutes sortes d'exercices de la vie, est quelque chose qui est un formidable moteur pour les hommes. Et c'est pour ça que je dis que si je devais parler du progrès humain, je ne mettrai pas au mérite de l'un ou l'autre genre, avec une hiérarchie quelconque. Je pense que c'est précisément quelque chose qui s'est construit et qui a été constructif des deux côtés de façon strictement égale, même si c'est sur des modalités différentes, et des modalités différentes qui n'ont pas été simples à vivre ni pour les uns ni pour les autres.
Alors vous nous expliquez aussi pourquoi la natalité est en berne aujourd'hui au Japon.
Oui. Entre autres, décidément.
J'ai trouvé que cette anecdote était très amusante.
J'aime beaucoup la façon dont justement vous extrayez des choses de cet ouvrage. Oui, je raconte pourquoi la natalité est en berne au Japon, parce que le Japon est un empire qui a importé la culture occidentale à la fin du 19e siècle, mais qui n'a pas évacué la culture d'origine et les traditions. Or, dans la tradition, il est fait devoir à une femme de recueillir ses beaux-parents âgés. Et aujourd'hui, les femmes, enfin, à la femme du fils aîné. Aujourd'hui, les femmes du fils aîné ne veulent plus avoir à subir ce genre de choses. Donc, leur accès à la modernité les a mises en difficulté avec la tradition, et elles ont résolu le problème en décidant de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants. Imitées en cela très vite par d'autres femmes, à telle enseigne que le Japon est littéralement menacé. Les 138 millions d'aujourd'hui se sont menacés de n'être plus que 58 millions en 2100. Et pour le Japon, c'est un immense problème.
Alors vous nous expliquez aussi que nous avons très peu changé biologiquement parlant depuis les origines de l'espèce, justement.
Oui, nous avons très très peu changé, et pas seulement biologiquement parlant, mais mentalement parlant. Et oui, absolument. Et psychiquement parlant, nous avons très très peu changé. Nous imaginons que nous avons progressé parce que nous voyons le progrès technique. Mais nous sommes en définitive des individus formidablement égoïstes, extraordinairement méchants, des animaux, des individus peu fiables. Nous contredisons d'un moment à l'autre. Nous n'avons toutes les qualités qui sont promues par les morales sont de très jolis mots auxquels nous adhérons, mais de façon distanciée. Et en définitive, quand on pense, nous ne sommes que des animaux égoïstes, sans plus. De ce côté-là, si vous voulez, je ne suis pas original. Pascal a tellement dit de choses autour de ça.
Donc nous sommes encore des chasseurs-cueilleurs mal dégrossis. Alors, la guerre des sexes, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle continue.
Et comment elle continue? Elle est encore plus vivace que jamais, dans la mesure si vous précisément... Elle a mal tourné, parce que, si vous voulez, pendant très longtemps, la guerre des sexes était justifiée par les inégalités qu'il y avait entre hommes et femmes au niveau des droits et au niveau de l'organisation sociale. Mais aujourd'hui, le tour qu'elle a pris est tout à fait regrettable, pour une raison simple, c'est que la revendication n'est plus du tout une suppression des inégalités, c'est devenu une suppression des différences. Et c'est tout à fait regrettable, parce qu'on retire pour les unes comme pour les autres quelque chose qui fait vraiment le sel de la vie et qui est un enrichissement perpétuel. Mais vous savez, ça n'est pas que sur ce plan que nos sociétés se sabordent sans même le savoir.
Non, effectivement, il y a le plan financier, on pourrait en reparler. Voilà. Il y a aussi le fait religieux qui a un impact énorme sur la manière dont nous concevons nos liens.
Oui, mais justement, Le fait religieux ne parle absolument pas du tout des liens d'alliance, très curieusement. Pourquoi ? Parce qu'il met sans aucun doute les alliés au même titre que n'importe quel autre, hein, et que la morale qui découle du fait religieux doit permettre de pouvoir nouer avec ces individus étrangers les mêmes liens que l'on initie avec les autres. Hein. Et de ce côté-là, si vous voulez, nous ne parvenons pas à comprendre par le biais du religieux ce qu'il en est de la tension qui habite ces liens d'alliance.
Alors le mariage n'a pas toujours existé, mais le couple, si ?
Alors, le mariage en tant que cérémonie existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Vous savez, quand les explorateurs blancs occidentaux ont découvert en 1957 les populations du Haut-Sépik en Nouvelle-Guinée, qui étaient à l'âge de pierre, ces populations pratiquaient déjà le mariage. D'accord ? Et le mariage a une origine directement, pratiquement au moment de la loi de l'espèce. C'est-à-dire que les appariements se sont faits à ce moment-là et ont été terriblement surveillés pour que la loi ne soit pas outrepassée. Et il existe d'ailleurs un témoignage de l'existence des mariages sous la forme des systèmes familiaux. Et ces systèmes familiaux, qui sont au nombre de 6, disent les unions possibles et les unions non possibles. Aujourd'hui, si vous voulez, Le mariage est décrié. Il est décrié en ce que, justement, on lui attribue une origine judéo-chrétienne. Mais pas du tout. Ça existait bien avant le judaïsme, bien avant. Ça existait en Mésopotamie et c'était attesté par tout ce qu'on veut. Le mariage a été institué probablement pour une raison extrêmement intéressante, bien qu'on ne la définisse qu'à dans l'après-coup. C'est que c'est une occasion pour chaque individu de pouvoir changer de référentiel. C'est-à-dire que lorsqu'il se marie, il cesse d'être l'enfant de ses parents. Il devient le partenaire d'une autre partenaire et c'est un acte symbolique qui est posé en présence de l'environnement social pour pouvoir dire « voilà, je me définis nouvellement de cette manière ». Si on ne se définit pas de cette manière, on reste l'enfant de ses parents. Et Dieu sait pourtant que les parents qui ont beaucoup de difficultés à se séparer de leurs enfants, sautent sur l'occasion pour faire en sorte que ça persiste, ce genre de choses.
Mais du coup, la fille devient inféodée, en tout cas, à sa nouvelle famille.
La fille n'est pas la fille.
C'est-à-dire la fille qui se marie.
Oui, la fille qui se marie n'est pas inféodée à sa nouvelle famille, bien au contraire, elle reste la fille de sa propre famille. Elle n'est pas brue. Non seulement elle n'est pas brue, mais elle a toute capacité de pouvoir rejeter sa belle famille. De la même manière que, généralement, le fils pourrait éventuellement faire la même chose, sauf que nous savons très très bien que les rapports hommes-femmes sont des rapports vectorisés. C'est-à-dire que, oui, vectorisés au sens où précisément, une femme attend le prince charmant, en quelque sorte, peu ou prou, et ce qu'elle attend certainement, c'est quelqu'un qui puisse s'interposer entre sa mère et elle.
Ah oui, c'est aussi simple que ça, finalement. Pardon ? C'est aussi simple que ça.
Oui. Absolument. Sauf qu'au moment où elle rencontre celui qui, justement, pourrait s'interposer entre sa mère et elle, et qui succéderait à la fonction du père quand elle s'est exercée ou pas exercée, elle se rencontre avec horreur que, eh ben, il a une mère. Qu'il n'est pas si libre que ça. Et qu'il va falloir, c'est bien beau le prince charmant, mais la belle doche, ça, on aurait préféré qu'elle ne soit pas là. Vous savez, il y a une blague qui court comme ça et que je cite dans mon livre, « Poids idéal de la belle-mère, 5 kilos, urne comprise ». Vous voyez, c'est d'une férocité considérable. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va déverser sur cette femme toute la haine qu'elle n'a pas pu exprimer à sa propre mère et tous les sentiments négatifs qu'elle n'a pas pu exprimer à sa propre mère. Et elle va récupérer avec sa mère une relation infiniment plus apaisée. Donc de ce côté-là, on comprend très très bien la fascination que les mères de Bru ont à l'endroit de leur fille, vous voyez ? C'est-à-dire ce que la belle-mère de Bru perçoit très bien, parce qu'elle a vécu exactement cet événement, et qui fait que très souvent aussi, la tension qui existe, c'est une tension entre deux belles-mères.
Oui, c'est vrai qu'il y en a deux. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à la fin du patriarcat ?
Oui, on assiste à la fin du patriarcat et on ne devrait pas s'en réjouir. Pour une raison simple, c'est que le patriarcat a instauré des limites et que ces limites, le patriarcat, il faudrait être un petit peu prudent parce que Le patriarcat, si vous voulez, est situé du côté de la férocité. Moi, je veux bien, j'entends dire par là que, à partir du moment où la loi de l'interdit de l'inceste s'est mise en place, le père primitif, le père de la horde, le père a été tué, enfin a disparu. Et son pouvoir a été distribué entre quantité de petits pères. Mais ce pouvoir était contrebalancé par la puissance intrinsèque de chaque femme, qui met au monde des enfants des deux sexes et qui trace sur eux quelque chose qui reste pour leur vie entière. Eh bien, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les pères avaient pour vocation de poser des limites, ne serait-ce que par leur existence. C'est-à-dire de signifier à une femme qu'elle n'est pas autorisée à penser l'enfant comme étant d'elle seule et à agir avec lui de n'importe quelle manière. Et cette instance tierce, si vous voulez, est tout à fait fondamentale. Le patriarcat disparaissant, dans la coparentalité, le père n'étant ni plus ni moins qu'une mère bis, sans plus, hein, c'est-à-dire on est là dans une véritable homoparenté, d'accord ? Eh bien, on se trouve en quelque sorte dans un triomphe du matriarcat. Et le triomphe de ce matriarcat fait le lit des désordres que nous avons. Pourquoi ? Parce que quand le patriarcat ou le paternel pose des limites, le maternel dit pas de limites. Et le pas de limite nous a entraînés, justement, dans nos organisations sociales et politiques, à faire en sorte que nous avons accumulé de la dette et que nous avons décidé qu'il n'y avait aucune limite et que la finance là-dessus s'est précipitée pour pouvoir éventuellement aller faire ses magouilles et faire ce qu'il fallait. Et la crise de 2008 n'est pas autre chose que cela.
Intéressant. Conséquence. Comme analyse.
Écoutez, je veux dire que c'est d'autant plus intéressant que moi, ça m'a explosé à la gueule pendant que je poursuivais ce travail d'analyse de ce lien. Et je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je veux dire, quand j'ai entrepris mon ouvrage, je ne savais pas que ça allait déboucher sur cela. Mais c'est d'une logique imparable.
Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement de la théorie des genres au lycée ?
Je pense que c'est dramatique. Et que pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'on fait passer ça en science de la Terre, c'est-à-dire comme un fait scientifique, alors que c'est un fait idéologique. Et que c'est tout à fait regrettable. Bon, moi, je veux bien qu'on enseigne les idéologies, pourquoi pas ? Mais de la même manière qu'on parle du nazisme, de la même manière qu'on parle du fascisme, de la même manière qu'on parle de l'islamisme, pourquoi ne pas parler de la théorie des genres ? D'accord ? Maintenant, dire que ça a un fondement scientifique, ça, c'est une aberration.
Et vous pensez que ça aura des effets néfastes sur les générations futures ?
Oh ben, je pense personnellement que un point de retour a été franchi. Si bien que si vous me demandez ce que je pense des générations futures, je vous répondrai de façon imagée que je suis très content d'avoir l'âge que j'ai, parce qu'il me reste plus longtemps à vivre et que je ne verrai pas ce qui va se passer.
Ben voilà une conclusion bien peu optimiste, Aldo Nahori. Merci.